Bon. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le lieu où l'Éternel se révèle. Alors, évidemment, les choses ont évolué dans le temps. Et je ne vais pas parler d'Abraham, mais commencer par vous lire Exode 25, verset 22, qui dit, il parle, c'est Dieu qui parle à Moshé. Et il lui dit ceci, « Et je te rencontrerai là, et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, et je te dirai tout ce que j'ordonnerai pour les fils d'Israël. » Donc, on a ici un endroit où Moshé avait littéralement une communion avec l'Éternel. Vous allez voir pourquoi. Parce que le mot qui est traduit par témoignage a pour racine yada, yod avec un a long, dalet avec un a bref, et puis ein. Et yada, donc la racine va donner le mot témoignage, mais vous vous rendez compte que c'est aussi connaître au sens où, où un homme connaît une femme. Donc vous vous rendez compte, et c'est traduit par témoignage. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi reconnaître, hein, connaître, reconnaître. Donc il y a une reconnaissance là aussi, une rencontre, une reconnaissance de Moshé. Et en même temps, si vous faites une anagramme, vous avez Yod avec un A long, Ein avec un A bref et Dalet, et on joue avec les lettres. Hein? Et curieusement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux racines sont dans ce verset. Et l'anagramme signifie rencontrer. Donc, à la fois, Dieu vient rencontrer Moshé, et en même temps, c'est une rencontre d'une grande intimité. C'est comme un mariage. Donc, on va dire pour le peuple d'Israël, c'est vraiment le départ, là, dans le désert. Ils sont sortis de l'esclavage, et là, Dieu décide, c'est là que je vais vous rencontrer. Et tu diras, tu vas tout transmettre aux enfants d'Israël. Alors, évidemment, le peuple d'Israël est un peuple à part. Vous savez que dans la Bible, on parle de 70 nations. Mais Israël, c'en est une autre qui n'est pas comptée parmi les 70. Elle est à part. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les nations n'en veulent pas.
C'est un peuple, c'est pas une nation.
Ils n'en veulent pas. C'est une nation qui est surnaturelle. Ensuite, évidemment, les choses vont évoluer, vous savez très bien. Et si on prend maintenant le verset en hébreu d'Ésaïe 66 au verset 1, et vous allez voir que c'est très différent. Alors, on va faire tout de suite ce verset en hébreu. Alors, un kaf avec un dagesh dedans et un o, et puis un he. Alors, ça se lit ko, et ça se traduit par ainsi. « Ainsi, Aleph avec un A long, Mem avec un A bref, Resh, Amar. Amar, ça veut dire quoi, ça ? Parler. Alors, et c'est ici, c'est un verbe à l'accompli, à la troisième personne du masculin singulier. Donc, c'est au Paal, et ça se traduit, donc, ainsi, a parlé ou a dit. Ensuite, nous avons le nom de Dieu. Donc, Adonai, Yodevaveh. Le nom de Dieu. Et il va expliquer quelque chose qui est différent de ce qu'il a dit à Moïse. Alors, le mot suivant, c'est un « et » avec un « a » bref, un « shin » avec un « dagesh » dedans, et un « a » long, un « mem » avec un « a » bref, un « i » long, un « yod » avec un « i » bref, et un « e ». « Ashamaim » Pardon, je me suis trompé, c'est un même final. Ashamaim. Ashamaim, c'est quoi ? Hein ? Ah non. Ashamaim, ce sont les cieux. Il y a l'article devant, vous voyez ? A, avec un dagesh là. Et Shamaim, ce sont les cieux. Alors, on a Adonai, et puis les cieux. Alors, il continue, parce qu'il est, en train d'expliquer pratiquement où il habite. Le mot qui vient juste après, c'est un kaf avec un dagesh dedans et un i simple, un i, un samer avec un sheva et un aleph avec un i long. Que vous lisez comment ça ? Alors, la première lettre, qui, ça c'est un S, on n'entend pas le Sheva, donc kis-i. Kis-i. Et kis-i, eh bien, en fait, la racine c'est kissé, qui se termine par un aleph. Et c'est un trône. Un trône, un siège. Et comme vous avez I ici à la fin, vous voyez le I là ? Ça veut dire un moi. Donc ça, c'est mon trône. Autrement dit, Dieu, qui était venu parler à Moïse devant le témoignage, il dit, mais moi, mon trône, c'est les cieux. Et c'est pas fini. Un vav avec un sheva, un e avec un a long, aleph, avec un Alon, un Resh avec un Ségol et un Tsadi final. Alors ça, vous connaissez. Alors, vous voyez qu'il y a E devant, ça c'est E, hein. Vous avez l'article. L'article, normalement, je vous rappelle, c'est un A bref et un dagesh. Mais, comme on ne peut pas mettre un dagesh dans un Aleph, on allonge le A. Donc, l'article, il est là. Donc, l'article, c'est là. Et ça, alors évidemment, c'est une question de grammaire, mais normalement, Eretz, c'est la terre. Mais attention, hein, c'est pas que la terre d'Israël, hein. Eretz, c'est la terre, c'est le globe. Donc, il dit, et la terre, alors vous connaissez le verset par cœur, mon escabeau. Voilà, comme ça, ça va vous changer un petit peu. Alors, l'escabeau, ben, c'est un E avec un Sheva coloré en A, un Dalet avec un O et un même final. Alors ça, c'est l'article, là. Donc, je vais mettre L apostrophe. Et là, escabeau. Et évidemment, l'escabeau, ça sert à monter dessus. Et on monte dessus avec ses pieds. Donc, c'est l'escabeau de mes pieds. Alors, le mot qui veut dire ça, c'est un resh avec un A bref, un guimel avec un sheva, un lamed avec un alon et un yod, et vous avez l'atnar ici. L'atnar, je vous rappelle que c'est ce qui coupe le verset en deux. Alors, en fait, ici, la racine régel, vous voyez, on la voit ici, la racine, hein. Régel, ça veut dire les pieds, mais aussi les jambes. Donc, Dieu est en train d'expliquer que son trône est au ciel et que la terre, c'est son marchepied. Ce qui est complètement différent de ce qu'il avait dit à Moïse, puisqu'à Moïse, il a dit, c'est ici, là, devant le propitiatoire que je vais te rencontrer, mais moi, j'habite là-haut. Et toute la terre, c'est mon marchepied. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, vous voyez qu'en Israël, ça se passe à un endroit précis, et puis en même temps, il est partout. Alors pourquoi il ne pourrait pas rencontrer Moïse n'importe où ? Ben non. C'est lui qui est choisi. Alors, il va, du fait qu'il est partout, qu'est-ce qu'il va dire ? Parce que le verset se continue. Et il dit, Aleph avec un E bref et un Yod, un petit tiré, un Zayn avec un Ségol et un He. Eizé, C'est comme ça que ça se lit. Aisé. Qui va se traduire par où donc, point d'interrogation. Attention quand même, c'est Ésaïe qui parle, et il parle au peuple juif. Où donc un bet avec un A bref, un yod avec un I et un tav. Ça c'est quoi? Baït, une maison. Une maison. Où donc une maison? Et ensuite, vous avez un tav avec un dagesh dedans et un i. Ah, pardon. Excusez-moi, j'oublie un mot. C'était pour voir si vous suivez. Hein? Ça marche toujours, ça. Hein? Bon. Moi, j'aime bien dire des bêtises. Allez. Ça, vous connaissez, hein? Hacher. Ça veut dire quoi, Hacher? En chair.
C'est pas
non.
Qui,
que, quoi?
Ah oui,
en chair qui déchire nous, bénisse votre âme et tu vas nous mettre les tirates à Daïm. Ouais. Alors, en chair, ça veut dire que. Ou donc une maison que. Je peux effacer? Alors, on arrive au tav avec un dagesh dedans et un i, un bet avec un sheva, un nun avec un ou. Un tiré, li, lamed avec un i long. Alors, ça se lit, tivnou li. Tivnou li. Alors, ici, la racine, alors, li, ça veut dire. Vers, le lamed, c'est vers. Hein? Et i, c'est moi. Donc, vers moi, pour moi. On va le mettre comme ça, pour moi. Et là, vous avez devant un verbe qui est conjugué à la forme pâle, à l'inaccompli, et qui veut dire, la racine c'est bana. Bana, je vous rappelle, ça va donner ben, un fils. Je vous rappelle, j'ai déjà dit, hein, mais les deux premiers enfants de la Bible ne sont jamais appelés des fils. Ils n'ont rien construit. Il faut attendre le troisième fils qui est appelé un fils. Pour construire quelque chose. Et Yeshua est appelé un fils. Donc, il construit. Vous voyez? Donc, ici, c'est le verbe construire. Et donc, et c'est à l'inaccompli, donc c'est vous bâtirez. Vous bâtirez pour moi. Alors, si je reprends le verset jusque-là, ainsi a parlé Adonai, les cieux. Ah, ça c'est gentil. Oh. Vous m'entendez vraiment? Parce que moi je ne m'entends plus. Si, ça marche. Merci Seigneur.
Celui-ci, on a l'impression que ça va mieux, celui-ci.
Ça va aller de mieux en mieux. Merci, c'est gentil d'avoir fait ça. Alors, ici, donc, ça se traduit, si je reprends le verset jusque-là, « Ainsi a dit Adonai, les cieux, mon trône, et la terre, l'escabeau de mes pieds, où donc une maison que vous bâtirez pour moi ?» Et ça continue. C'est des versets faciles à voir. Hein. Vav avec un Sheva, Aleph avec un E. Et un yod, un tiret, zé, donc là vous retrouvez quelque chose qui était juste avant, hein. Vei, zé, et où donc. Et où donc, le mot suivant, c'est un même avec un A long, un kof, un O, un même final. Makom. Vous savez que Makom, c'est un lieu, mais c'est aussi un des noms de Dieu. Il y a plus de 100 noms de Dieu dans la Bible, et Makom en est un. Et on donc un lieu. Et on termine par un même, avec un Sheva, Nun, avec un Ou. Un chet avec un A long, un tav avec un I long. Et on a la fin du verset. Alors, en fait, ce mot-là, vous voyez, Ménouar. Ménouar, c'est le repos. Et donc, avec le I à la fin, c'est mon repos. Ménouhati, oui. On le lit Menuchati. Alors, c'est. En fait, c'est une construction, ces deux mots. On va dire un lieu de mon repos. Bon, alors pourquoi ce verset? On va maintenant reprendre les explications. Ce verset, il est là parce que il est étonnant, parce qu'il s'oppose complètement au précédent qui disait que Dieu venait spécifiquement à un endroit pour parler à Moshe. Et ici, on découvre qu'il y a deux dimensions. Il y avait une dimension nationale qui concernait le peuple d'Israël, et puis il y a une autre dimension universelle qui concerne le monde entier. Et donc Dieu présente les deux choses. Et c'est à nous maintenant à creuser pour savoir mais comment Dieu se présente-t-il au monde et comment il va venir parler à nous. Et là, on va creuser les choses. Alors, d'abord, je vais vous donner un petit passage d'un enseignement de Rabbi Yohanan, un sage d'Israël. Les sages d'Israël disent que à chaque fois l'Éternel, quand il montre sa puissance, eh bien, il y a également l'apparition de son humilité. Et c'est important parce qu'on voit que on va voir apparaître le Dieu de notre Dieu dans le monde, et puis on va progresser pour arriver jusqu'à notre cœur à nous. On va faire ça aujourd'hui. Alors Rabbi Yohanan, il a étudié ça et il a pris trois versets simplement pour l'expliquer. Vous savez que les Juifs, déjà du temps de Yeshua, il y avait la loi, les prophètes et les écrits. La loi, les prophètes et les écrits. Alors, c'est ça qui a donné donc la loi, c'est la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Puis après, vous avez les Neviim, les prophètes. Et puis après, vous avez les Ketuvim, qui sont les écrits. Et ça va donner le nom, si on prend les initiales, ça donne le mot Tanar. Voilà, que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Mais il est pas, les Juifs ne l'ont pas rangé comme nous. Hein? C'est important, hein? Alors, si je prends dans la Torah, donc dans la loi, je prends le verset Deutéronome 10, 17, et je lis « Car l'Éternel, votre Seigneur, est le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le Seigneur grand, puissant, suscitant la crainte, qui ne fait acception de personne. » Et qui ne reçoit pas de présent corrupteur. Alors, on a ici un Dieu qui est présenté comme très puissant, et on se dit, oulala. Donc, il y a trois adjectifs, il y a grand, puissant, inspirant la crainte, et il est aussi incorruptible. Alors, le verset qui suit, donc là on a la puissance, hein, vous voyez, mais regardez le verset qui suit tout de suite, c'est Deutéronome 10, 18, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Donc vous voyez que sa puissance, son autorité, elle est pour la justice. Et donc, à chaque fois qu'on voit apparaître la puissance de Dieu, aussitôt, vous avez... Mais attention, je suis près des gens qui sont brisés, je suis près des gens qui sont pauvres, etc. Donc, c'est intéressant à voir ça. Et la racine à l'âme, dans le verset de Deutéronome 10-18, parle du veuvage. La veuve et l'orphelin. Mais en fait, cette racine, elle est intéressante parce que elle englobe, elle veut dire aussi les muets. Et les muets, vous savez que on l'a déjà vu, mais un des critères de l'esclavage, c'est que tu n'as pas la parole. Les muets, c'est les sans-voix. Les muets, c'est ceux qu'on n'écoute pas, qui sont là, c'est les malheureux de la terre. On ne les écoute pas, on ne fait pas attention à eux. Et donc, quand Dieu parle de la veuve et de l'orphelin, ben c'est ça. Et vous savez que, bon, ça c'est important, hein, les gens qui étaient malheureux, qui avaient la lèpre, qui étaient pauvres, qui étaient, enfin, tous ces gens-là, ou même la femme qui n'arrivait pas à enfanter, étaient considérés comme des morts. Et c'est pour ça que quand Yeshua va venir, il va rendre la vie à ces morts-là. Il va ressusciter les gens qui avaient la lèpre. Il va les guérir. Les paralytiques, etc., il va les faire marcher parce qu'ils étaient considérés comme morts. Ça, ça arrive de temps en temps, hein. Du moment que le pantalon ne tombe pas avec. Alors, vous voyez que tout de suite, avec la puissance de Dieu, on a sa justice. Ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, dans les Névi'im, on a la transcendance et l'immanence. Les Névi'im, c'est les prophètes. Alors, je lis dans Ésaïe 57, verset 15, « Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel le nom est le saint, j'habite le lieu élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. » Vous voyez un peu, revivifier, c'est rendre la vie. Ça veut dire qu'ils étaient considérés comme morts, inutiles pour la société. C'est ça, mort. Donc, ici, Dieu est dans les cieux, il est exalté, etc., mais il est aussi avec celui qui est abattu, etc. Et à chaque fois, on a ça. Donc, la racine d'Acha, qui signifie abattre, être coupé, forme aussi le mot dépression. Et l'Éternel parle des gens qui sont écroulés. Vous savez, il y a un verset qui parle de Samson. Et à un moment donné, quand on apprend la traduction, c'est marqué que son âme s'effondra. À un moment donné, elle s'effondre. Il tombe en dépression. Il s'écroule. Il est comme mort. Eh bien, ici, la racine, c'est ça. Dieu veut s'approcher des gens écroulés. Vous vous rendez compte? Donc, il est tout puissant, il est dans les cieux, il domine tout. Mais il dit, moi, je veux m'occuper des gens écroulés. Il habite avec ces gens-là. Il habite avec ces gens-là. Vous vous rendez un peu compte ce que ça veut dire? Je vais lire le verset. Hein. J'habite un lieu élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit. C'est quand même formidable. La parole nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. C'est dans le psaume 89 au verset 15. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc vous voyez, l'essentiel de notre vie à nous, c'est de rendre la justice, rétablir la justice. Parce que le Seigneur a besoin des hommes pour rétablir la justice sur terre. Et c'est d'ailleurs la raison de la tzedaka que nous utilisons et que nous faisons en Israël. En Israël, je l'ai déjà dit, on ne fait pas l'aumône. Jamais. Parce que quand on fait l'aumône, il y a un supérieur et un inférieur. On donne la tzedaka. Et la tzedaka, ça veut dire, ça vient de tzedek, le tzadik, le juste. Et c'est rendre la justice, c'est rétablir la justice. Si quelqu'un est dans le besoin, on ne lui fait pas l'aumône, on dit on va rétablir la justice pour toi, on va te donner ce qu'il faut. C'est tout à fait un autre esprit. Tout à fait un autre esprit. Et c'est fait d'une manière très discrète. Je me souviens quand on s'était promené dans le quartier très orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem, eh bien, il y a des pains qui sont sur des chaises ou sur les montants des fenêtres, comme ça. Ils mettent du pain.
À la fin de la journée.
Parce qu'ils n'en ont plus besoin et ils pensent à ceux qui en ont besoin. Donc ça se fait discrètement. Il y a quelqu'un qui vient le prendre. Mais on ne jette jamais du pain. C'est tout à fait un autre esprit. Alors, on continue. Donc ici, vous voyez que le mot « revivifier », qui est traduit par « revivifier », c'est les « leacharim » qui veut « leraya », pardon, je vais recommencer, « leachayot » qui veut dire « rendre la vie ». Il rend la vie aux pauvres, aux malheureux, à ceux qui sont brisés. C'est-à-dire qu'il les rétablit dans leurs droits, dans tout ce dont ils ont besoin, il leur rend leur honneur, il leur rend la vie. Il les remet dans la société. Il les remet en route. Et puis, le troisième texte qui est pris dans les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits, c'est le psaume 68 au verset 5. Chantez, chantez en l'honneur du Seigneur, frayez un chemin à son nom, à celui qui est monté sur les cieux, en son nom Yah, réjouissez-vous devant lui. Et tout de suite le verset qui suit, il est le père des orphelins et le juge des veuves, le Seigneur qui demeure dans sa sainte demeure, le père des sans-voix. Le père de ceux qui ne comptent pas. Vous vous rendez compte? Donc, vous voyez que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Dieu est le Père. Hein? Bien sûr qu'il est le Père. Moi, nous, on écoute les rabbins, ils parlent de leur Père. Hein? Bien sûr. Alors, on va continuer parce que ce qu'on étudie, c'est le lieu de rencontre. Donc, ça va prendre un petit peu de temps et puis je vais faire beaucoup de discours aujourd'hui. Ça va? Ça vous embête pas? C'est rien, vous irez vous reposer après. L'Éternel est dans le cœur de l'homme. Ésaïe 66 au verset 2. Et toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes se sont accomplies par la parole de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre, et celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Craindre la parole, ça veut dire... C'est pas avoir peur de Dieu. Ça veut dire le respecter. Et si je respecte quelqu'un, d'une part, je l'écoute, et d'autre part, je prends au sérieux les Écritures. C'est ça la crainte de l'Éternel. Alors, L'Éternel s'installe chez le pauvre. La racine, c'est Navat, qui est utilisée dans l'expression « Voici sur qui je porterai mes regards ». Et ça veut dire qu'il regarde du haut vers le bas et ses yeux cherchent les malheureux. Et il porte les regards sur la vie des malheureux. C'est formidable. Un Dieu comme ça. Mais en plus de ça, c'est un regard très spécial. Parce que la racine Navat, qui dit qu'il va porter ses regards, eh bien, c'est en même temps une semence. C'est-à-dire que un regard de compassion de Dieu sur quelqu'un qui est abattu, il met une semence dans son cœur. Alors une semence de Dieu, ça va rendre la vie. On voit que l'homme devient alors, puisqu'il a une semence de Dieu en lui, parce que Dieu l'a vu, Dieu le voit, c'est écrit. Il faut croire ce qui est écrit. Dieu le voit, il met une semence dedans, et cette semence va grandir, et il devient le temple de l'Éternel. Alors on va creuser tout ça, parce que c'est fort important. Parce que le Seigneur, l'Éternel, s'installe chez les brisés. En même temps, nous voyons que les fils d'Israël ont fait un temple et il est venu habiter dans ce temple, en même temps. Vous voyez, c'est très spécial, hein ? Et pour le peuple d'Israël, il y a un régime particulier. Et je vais même vous dire, quand il est parti, quand les Juifs ont été déportés, plusieurs fois, mais la dernière fois, 2000 ans, et bien il est parti en déportation avec eux. Et je vais vous lire un verset ici qui est très particulier. C'est l'Éternel dans Jérémie 30, verset 3. Je vous lis d'abord la traduction de second. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. » Alors on se dit, bon, ben c'est bien, il a décidé que tous les descendants d'Israël retournent dans le pays, ça c'est fait, ça continue à se faire, mais attendez, le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe « chouv » qui veut dire « ramener », mais il veut dire aussi « revenir ». Et il est conjugué au Paal, dans ce verset-là, à la première personne du singulier, à l'accompli, avec un vav inversif devant, donc à l'inaccompli. Et donc, on peut le traduire d'une autre façon. Au lieu de dire « je ramènerai les captifs de mon peuple », eh bien, la traduction, c'est « je reviendrai avec les captifs de mon peuple ». Et c'est ce qui s'est produit. Parce que maintenant, vous voyez que de plus en plus de ces descendants d'Israël recommencent à étudier les Écritures, recommencent à reprendre la Torah et à voir ce que Dieu veut faire. Et le monde n'est pas content de ça.
Et les fleurs repoussent, les fruits
d'apprendre. Du fait que Dieu est revenu avec eux, toute la terre repousse. Tout, ça, pendant 2000 ans, il n'y a rien qui a poussé. Et maintenant qu'il rentre, tout pousse. Alors, si c'est pas beau, ça, hein? La puissance de Dieu. Alors, on va quand même faire le verset 20, Exode 25, 8. J'ai pas fait beaucoup de versets parce que j'ai beaucoup d'explications à donner. Ça va, vous m'en voulez pas? Oui. Bon, c'est un petit verset, hein. Un vav avec un sheva, ein avec un alon, un sin, je vous rappelle, hein, le sin c'est avec le point à gauche, hein, et un ou. Veasu. Veasu. Alors c'est le verbe asa qui veut dire faire, fabriquer. Hein. Je vous rappelle que Dieu a tout créé à partir de rien le premier jour. Et après, les autres jours, il a fabriqué.
Il a organisé.
Oui. Et il feront. Alors, le « il », c'est le peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle, hein. Et ils feront lit pour moi. C'est Dieu qui parle, hein. Ils feront pour moi un même avec un i bref, un kof avec un sheva, un dalet avec un alon et un shin. Et là, vous avez la tnar. Alors, vous lisez ça comment? Mikdash. On n'entend pas le Sheva ici, donc ça fait Mikdash. Et Mikdash, c'est un temple, un lieu saint. Donc Dieu leur demande de faire un lieu particulier. Et ce lieu, il va être fait à l'endroit où Abraham a ligaturé son fils. Alors vous savez, quelquefois on pense que Isaac, il devait avoir peut-être 6 ans quand c'est arrivé, mais non, pas du tout, hein. Les rabbins nous disent que c'est plutôt 32 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Donc il était tout à fait conscient et il savait bien ce qui allait arriver. Ouais. Mais c'est normal, hein. Yeshua est mort à 33 ans. Hein.
Ah, oui.
Donc. Alors, on continue. Vous me ferez un temple. Alors, un vav avec un sheva, un shin avec un alon, un kaf avec un abref, un nun avec un sheva, un taf avec un dagesh dedans et un ilon. Vesharanetti. Ici, on entend le « et » ici. Vous corrigerez sur ma feuille parce que j'ai fait une faute. Mais « Vesharanetti », la racine, c'est « charan ». Charan qui veut dire se mettre, demeurer, habiter, résider. Et ici, ça veut dire et je demeurerai et j'habiterai. Et j'habiterai un bête avec un dagesh et un Sheva. Un tav avec un O. Un kaf avec un A long et un même final. Et on termine le verset. Alors, c'est Teren. Teren, qui, en fait, ce qui veut dire, c'est un nom commun qui veut dire au milieu de. J'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu dit expressément qu'il veut un temple. Ça va durer un certain temps, évidemment, on le sait, jusqu'au moment où, à cause des injustices, parce que Dieu, c'est un Dieu de justice, à cause des injustices, le temple va être détruit. Et c'est terrible, hein. C'est terrible parce que déjà du temps d'Ézéchiel, on voit le chariot de Dieu qui monte le mont des Oliviers et qui, comme s'il regardait en arrière, tristement disant « je suis obligé de partir de là ». Et quand Dieu quitte le temple est détruit. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Foulé aux pieds, parce que la présence de Dieu n'y est plus. Et rappelez-vous que du temps d'Ézéchiel, Ézéchiel avait eu cette vision, il était rentré dans le temple et il voyait toutes sortes d'animaux terribles. Les anciens adoraient des dieux étrangers. Rappelez-vous de ce que Salomon a fait, etc. Donc au bout d'un moment, Dieu n'en peut plus. Il dit « moi je ne peux plus, je ne peux pas cohabiter avec des démons ». Donc il dit maintenant je sors de là, et c'est important, vous savez, parce que c'est la même chose pour nous, nous sommes le temple de Dieu. Si nous faisons cohabiter le Saint-Esprit avec des saloperies dans nous, au bout d'un moment Dieu n'en peut plus, hein. Vous avez vu ce qui est arrivé au temple, il a été détruit. Eh bien, il peut très bien être détruit quand on parle du temple humain. Mais bien sûr. Moi, je connais quelqu'un, il a abusé plein de femmes, etc. Mais au bout d'un moment, il était en vélo, il y a deux chevreuils qui sont sortis de la forêt, il est tombé par terre. Il a été un mois dans le coma, sa tête a été fracassée.
Il n'y avait pas de casque.
Il n'y avait pas de casque. Et toute sa vie a été foutue. Je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, mais c'était un ministère. Dieu l'a détruit, hein. Il faut faire attention, c'est ça la crainte aussi de l'Éternel. Oui.
Est-ce que ça ne nous rappelle pas un petit peu ce qui s'est passé à Laodicée ?
À Laodicée, absolument, bien sûr.
Absolument.
Je rappelle que dans l'église de Laodicée, le Seigneur n'y est pas. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Il dit, je vais la vomir, cette église. Et la vomir, vous savez, quand Israël a été vomi de sa terre, mais ça a été des centaines de milliers de morts. C'est pour ça que je dis, je vais peut-être être dur, mais nous, on a eu l'occasion, Véronique et moi, de visiter beaucoup, beaucoup d'églises et de voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Et je dis, à un moment donné, ce n'est pas impossible qu'il arrive ce qu'on va appeler une persécution, mais qu'en fait, ce sera Dieu qui vomira. Parce qu'il y a des choses qui sont intolérables, qui sont faites, pas dans toutes les églises, heureusement, mais il y a des églises, je vous assure, que ce qu'on a vu, c'est pas beau. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la crainte de l'Éternel. On ne l'a pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que on dit aux gens, Dieu vous voit juste. Vous êtes justifié. Ah bon ? Ah ben alors je peux tout me permettre. Et il y a des gens qui sont comme ça. On en a vu. On en a vu. Donc, soyez pas étonnés si un jour vous voyez des choses qui s'écroulent. Ça fait pas partie de la formation que je suis en train de faire, là, mais on a vécu tellement de choses. Alors, maintenant, je vais vous parler de... On va entrer dans une deuxième partie de l'étude, et je vais vous parler du cœur humain. Dans la version de second, il y a 846 versets qui utilisent le mot « cœur », « lev » en hébreu. Alors, nous, humains, tout simple, quand on parle du cœur, on pense tout de suite aux sentiments, à l'amour, voilà... J'ai bon cœur, voilà. J'ai quelqu'un qui a un bon cœur, je l'aime de tout mon cœur, tous ces machins-là. Hein? Moi, je voudrais vous parler du cœur biblique. C'est pas tout à fait pareil. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est parce que c'est à partir de beaucoup de versets, hein. J'essaye d'y voir clair comme vous. Mais le Seigneur nous a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, etc. Ça veut dire que le cœur et l'âme, c'est pas pareil. Parce que sinon, il n'y aurait pas mis les deux. Et puis le cœur, c'est pas non plus l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que le cœur ? Ben, on va voir que le cœur... Allez, au cours suivant, je vous ferai un dessin. Parce qu'on continuera à en parler du cœur. Vous avez l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est ce qui est en communion avec d'autres esprits. Ça peut être l'Esprit Saint, mais ça peut être un autre esprit. Vous avez également dans l'homme son âme. Son âme, c'est sa volonté, ses sentiments, tous ses désirs, etc. Et puis vous avez le corps qui est une enveloppe. Ce que Dieu veut, c'est sauver l'âme. Hein. Et la parole nous dit dans Job, s'il retirait à lui son souffle, c'est parce que l'esprit, il a deux noms. Dans la Bible. Soit on l'appelle rouar. Alors ne mélangez pas votre rouar à vous et rouar à Kodesh, le Saint-Esprit. Donc nous avons un rouar qui porte aussi un autre nom qui est la Neshama. Et avec le mot Neshama, on fait Neshima qui est le souffle. Les esprits sont des souffles. D'accord ? Bon, alors, vous avez donc la Neshama qui reçoit des autres esprits, ou de Dieu, de l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, et qui va être associée à l'âme, qui va transmettre des informations à l'âme. Et l'âme, elle va conduire le corps. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ça veut dire que, à la jointure entre l'esprit et l'âme, il y a là un endroit, une espèce de membrane, un quelque chose qu'on appelle le cœur. Et qui se trouve à la jointure des deux. C'est mon interprétation, hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Comme si l'âme et l'esprit s'interpénétraient, là, puis, vous savez, quand on faisait des cours sur les ensembles en maths, bah, imaginez deux cercles, puis il y a un petit coin là, qui est commun, bah, c'est ça le cœur. Ça va ? Bon, c'est une image, hein. Alors, on va. C'est important à comprendre cette histoire de cœur. Parce que souvent, on mélange tout. On met des années à comprendre. Hein. On met des années. Hein. Alors, le cœur, c'est quoi ? Je vais m'appuyer sur beaucoup de versets parce que je ne veux pas vous raconter des salades. Le cœur, c'est le siège de la pensée intime. C'est là que l'homme est vraiment lui-même. D'ailleurs, vous connaissez le verset qui dit « L'Éternel regarde au cœur ». Il ne regarde pas l'emballage, il s'en fout complètement de l'emballage, de la couleur de l'emballage, de la couleur des cheveux, s'ils sont longs, s'ils sont courts, tout ce que vous voulez. Non, ce qu'il dit, je regarde au cœur. Très important. Et l'Éternel a constaté avec tristesse dans l'humain, dans l'humanité, que le cœur de l'homme est une source de mauvaises pensées. Le cœur, c'est en quelque sorte la vérité de l'homme. Alors je vous lis, hein, Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, vous notez bien, ça ne vient pas de l'âme, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans Genèse 8, 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, tiens, lui aussi. Et vous savez que quand on parle avec quelqu'un, si ça sort du cœur, ça va dans le cœur.
Ce qu'il dit touche pas le cœur.
Si ça sort de l'âme, ça va dans l'âme. C'est marrant, hein ? Donc, dans l'âme, c'est des sentiments. Je vais vous parler des Écritures, mais je vous le fais d'une manière comme un prof de français. Ça va aller dans votre âme, ça n'ira pas dans votre cœur. Si je ne suis pas convaincu, si ce n'est pas dans mon cœur à moi, ça ne fera rien du tout. Il faut que ça soit rentré dans mon cœur pour que ça rentre dans le vôtre. Sinon, c'est du pipeau. Alors la conscience, c'est dans l'esprit. C'est la conscience du bien et du mal qu'on reçoit à la naissance. Et c'est quelque chose du rouard. Ouais. Alors je continue. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et parmi ces mauvaises pensées, je vais vous dire, la pire de toutes, C'est l'orgueil. Pourquoi c'est la pire de toutes? Parce que l'orgueil, c'est moi. Moi, je veux. C'est moi. Je prends tellement de place qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Le résultat, c'est que l'orgueil précède la chute. C'est logique. C'est, j'allais dire, c'est mathématique. Et donc, l'orgueil, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Satan. Et il a péché par orgueil, et il s'est cassé la figure.
C'est bien le moi sans Dieu, c'est ça ?
Le moi sans Dieu. Absolument. Mais vous avez des gens comme ça. Ils explosent d'orgueil. C'est eux, eux. Alors, on continue. Deutéronome 8, 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Tu vois ? Si ton cœur y s'enfle, c'est que tu deviens orgueilleux et tu oublies l'Éternel. Il n'y a plus de place pour lui. L'Éternel, il va être dans notre vie en fonction de la place qu'on lui laisse. Si tu lui laisses une petite place, eh ben, tu auras un petit Dieu. Si tu lui fais une grande place, alors tu verras des choses et tu vas vivre des choses. Dans 1 Samuel 17, 28, on voit, il dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Ésaïe 14, 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Ça, c'est Satan. Hein. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles d'Élohim. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » L'Éternel, vous voyez, il va sonder les cœurs pour voir ce qu'il va y trouver. Et il cherche des hommes et des femmes dont les paroles, parce que ce qui va, on va en parler tout à l'heure, mais tout ce qui est dans le cœur va être transmis à l'âme qui va le sortir par les paroles. Donc, il faut que les paroles et les actions, puisque les paroles viennent du cœur, il faut que les paroles et les actions soient identiques. C'est la droiture de cœur. Et dans le psaume 17, au verset 3, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. » Ça, c'est psaume 17, verset 3. Vous l'aurez dans le papier. Hein. J'ai tout mis dedans. Dans Matthieu, on voit Matthieu 15, 8. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, Dieu regarde au cœur. Et quand on a le cœur pur, eh bien, il nous est dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Elohim. Vous vous rendez compte de l'importance du cœur? Alors, c'est le lieu aussi des affections, bien sûr, l'amour, etc., ou du désintérêt complet. Le cœur, c'est le siège de l'amour ou de la haine. On voit par exemple dans Genèse 34, verset 3, « Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. » Ils ont parlé de cœur à cœur. Ça part du cœur, ça va dans le cœur. Dans Exode 9, 21, « Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. » Si tu prends pas à cœur la parole, tu feras rien. Tu feras rien. On va approfondir tout doucement. Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le cœur avant l'âme. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que tu fais connaissance par l'esprit. Donc c'est ton rouar qui est touché. Ça passe par le cœur qui transmet à l'âme, qui est joyeux, joyeuse et qui crie. Qui crie sa louange. C'est tout un cheminement, on voit le fonctionnement. Dans Hébreux 3, 12, on lit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner d'Élohim vivant. » Moi, je remplace toujours maintenant le mot « Dieu » par « Élohim hein, », parce que « Dieu », ça vient de « Zeus ». Ouais, c'est quand ils ont fait la Septante, les Juifs ont traduit la Bible en grec à partir de l'hébreu et se sont dit, mais les Grecs, ils ont beaucoup de dieux, à quoi est-ce qu'on pourrait comparer Elohim ? Et ils ont dit, à Zeus, le dieu des dieux. Et c'est devenu Deus après, en latin. Et c'est devenu Dieu en français. Alors moi, j'en veux plus. Hein?
Dumnezeu, en roman.
Je comprends.
On dit aussi en roman Dumnezeu.
Oui.
Aussi Dieu. Hmm.
Donc, si vous voulez, de toute façon, c'est simple. Hein. À chaque fois que vous voyez dans la version seconde le mot Dieu, c'est Elohim. Et si vous voyez l'Éternel, c'est Yod-Heh-Vav-Hé. C'est pas ça, c'est pas compliqué. Voilà. C'est les deux noms principaux de Dieu. Mais il y a aussi Yah. Yah, oui. Yah. Il n'y a plus de 100 noms de Dieu. Parce que, en fait, ce sont des facettes de Dieu. C'est des côtés. Moi, j'aime bien la bénédiction des Kohanim. Quand il dit, il montrera ses faces. Qu'il tourne ses faces vers toi. C'est toujours au pluriel. Hein. Ça veut dire que progressivement, tu vas apprendre qui est Dieu. Et c'est sans face dans la Bible. Donc, vous voyez qu'il y a toute une vie hein, pour comprendre ça. Mais c'est intéressant, hein? C'est passionnant. Hein? Alors, le cœur, c'est aussi là que va se mettre la mémoire de la parole si tu l'aimes.
C'est beau, ça.
Ouais. Lorsque tu reçois la parole qui vient d'un cœur, parce que tout dépend qui est-ce qui te parle de la parole. Mais quand ça sort de son cœur, que ça vient dans ton cœur, elle va s'enregistrer dans ton cœur.
Et donc pas dans l'intellect.
Et pas dans l'intellect. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait un cours, qui répète ce qu'il a appris tout bêtement comme un cours traditionnel, ça ne va pas aller dans ton cœur, ça va aller dans ta tête, dans ton âme. C'est pas le même endroit. Vous vous rendez compte comme c'est important? Alors, Deutéronome 4:9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, si vous enseignez à vos enfants d'une manière intellectuelle, vous ne vous inquiétez pas, le résultat sera nul. Mais si vous vivez et que ça sort du cœur, eh bien, vos enfants, ils seront touchés. C'est évident.
C'est fort, ça c'est fort, ça.
Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, vous voyez, les gens qui font l'école du dimanche, s'ils font ça d'une manière intellectuelle, s'ils répètent bêtement ce qu'on leur a appris, ça ne sert à rien. M'excuse hein, d'être tranchant comme ça, mais c'est la vérité. Hein. Alors, c'est le lieu du fait que la parole, elle vient s'installer dans le cœur. Eh bien, c'est le lieu qui va nous donner le discernement. C'est le lieu qui va aussi nous donner la sagesse. Deutéronome 8:5, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son enfant. Il nous arrive quelquefois des trucs pas prévus dans la vie, et on s'est dit, mais c'est quoi qui se passe ? Et ça peut être aussi Dieu qui nous éduque. Mais comment on va reconnaître si c'est ça ou si c'est autre chose ? Eh bien, c'est dans ton cœur que ça se passe. Tu sais, parce que la parole, elle est dans ton cœur, et tu commences à connaître Dieu, et tu sais que ben, c'est lui qui est en train de t'éduquer. Et tu vas voir le positif de ce qui est en train de se faire. Proverbe 2:10, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. C'est-à-dire que ton âme, elle va se réjouir parce que ton cœur a été touché et reçoit une connaissance. Vous voyez par où ça passe, mais c'est ce cœur-là, mais c'est l'endroit le plus important de l'homme.
Garde ton cœur plus que toute autre chose.
C'est le plus important. Dans le psaume 49 au verset 4, ma bouche, va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Le roi Salomon, il dit 1 roi 3:9, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Un cœur est intelligent parce qu'il reçoit la sagesse de Dieu. Et c'est comme ça que tout le monde, tous les rois de la terre, venaient voir Salomon. Il dit, mais comment est-ce possible d'être aussi intelligent, de juger de manière aussi intelligente, etc. Parce qu'il avait reçu cette sagesse dans le cœur. Et c'est quelque chose de particulier parce que c'est la sagesse de Dieu. Alors, un cœur peut se laisser séduire. C'est terrible, mais un cœur qui se laisse séduire, regardez Salomon, il s'est laissé séduire par le cœur de ses femmes. Pourtant, Dieu l'avait mis en garde. Il y avait trois choses qui étaient interdites au roi d'Israël, d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir des chevaux et d'avoir trop d'argent.
Ça détourne le cœur.
Les chevaux, pourquoi ? Parce que ça représente l'armée. C'était les chevaux de l'Égypte. Et Salomon avait des quantités de chevaux. Salomon, il a fait les trois fautes. Et comme il a eu mille femmes, il devait avoir la santé quand même. faut le faire, hein. Et un grand porte-monnaie aussi. Hein. Il s'est laissé séduire. Alors, le drame, c'est que quand un cœur est séduit, eh ben, comme c'est le cœur de son le cœur, eh ben, il croit avoir raison.
Ah oui.
Et quand un cœur est séduit, vraiment séduit, il croit avoir raison. Et ça, c'est terrible, parce que on sait qu'il a tort, mais il est séduit. Et vous savez comment on peut rétablir éventuellement les choses? Peut-être, c'est en regardant ses fruits. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez aux fruits. Donc, les fruits, s'ils sont mauvais, ils sont en contradiction avec les Écritures, et alors tu peux lui montrer, avec amour, il faut que ça sorte de ton cœur. Si ça ne sort pas de ton cœur, il va dire, fous-moi le camp. J'ai raison. Et il va trouver une raison pour faire ce qu'il fait. Donc vous voyez, c'est terrible ça. Et Salomon a été séduit, et résultat, il s'est cassé la figure, et son royaume a été divisé en deux. Donc quelqu'un qui s'est laissé séduire ne se rend pas compte qu'il est séduit. Il vit dans une sorte d'illusion qu'il considère comme la vérité. Il croit que c'est juste. Il n'y a que les fruits qui pourraient peut-être lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut le faire avec le cœur. Si ça ne part pas du cœur, ce sera, si c'est une discussion froide, vous savez comment on sait faire quelquefois, il n'y a rien qui va changer. Ça doit partir du cœur. Et c'est ça l'amour. Du cœur au cœur. Si tu veux brancher un cœur, eh ben, il faut mettre le fil entre les deux cœurs. Sinon, ça ne marche pas. C'est comme un micro qui n'a pas de fil.
Non, mais même avec le cœur, si la parole n'a pas d'importance pour lui, il ne va pas.
Oui, mais si le cœur arrive à toucher son cœur, peut-être qu'il peut y avoir une réparation. C'est pas sûr, après c'est son choix, hein. Alors, gardez-vous, Deutéronome 11, 16, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres Elohim et de vous prosterner devant eux. Séduire votre cœur, c'est pas l'âme qui est séduite, c'est le cœur. C'est lui qui commande tout. C'est vraiment... Et je me demande si la conscience, elle ne vient pas se loger là. Parce que, et le Rav Ben Chetrit, il nous a fait un truc. Une fois, il dit, imaginez quelqu'un, il y a eu un accident, il a perdu ses bras et ses jambes, alors on lui remplace. Donc c'est des jambes et des bras d'un autre. Après, il faut encore lui changer son cœur physique. Après, il faut encore lui changer son cerveau. Bref. C'est qui, à la fin? Alors, qu'est-ce qu'on est? Ben, on est un cœur. On est un cœur. Avec une conscience. C'est important de réfléchir ces choses-là, non? Parce qu'un jour, ça va arriver, vous savez, on pourra remplacer toutes les pièces du corps humain avec des morceaux de cochon, avec des trucs et des machins. Et puis, à la fin, on va dire, mais c'est qui ça? Robocop, exactement. C'est une conscience et c'est un cœur. Donc le résultat de la séduction, c'est que la personne est complètement égarée par rapport à l'Éternel. À partir de là, ces personnes ne comprennent plus les choses de l'Éternel. Et la Bible a une expression pour ça. Elle dit « ils ont le cœur endurci ». Il y a donc un rapport direct entre le cœur endurci et l'intelligence endurcie. L'intelligence obscurcie. C'est lié, c'est pareil. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 4, 18, on lit « ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » C'est mathématique. Moi, j'aime bien ce qui est logique. Hein. Psaume 95, verset 10. « Pendant 40 ans, vous vous rendez compte ce que Dieu dit du peuple d'Israël. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » Et même les apôtres, pourtant ils suivaient Yeshua, hein, tous les jours. Hein. À un moment donné, Yeshua, il fait le miracle des pains. Et puis, il est dit dans Marc 6, 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Donc ils ne comprennent rien aux choses de Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, le Seigneur il a dit, « Mais pendant combien de temps je vais rester avec vous, bande d'andouilles ?» Enfin, c'est moi qui rajoute. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça part du cœur. Dans Job 17,4, « Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. » Et vous voyez, le Seigneur, pendant 40 ans, hein, ils ont tourné dans le désert. 40 ans. Parce que la fois prochaine, je vous parlerai de l'œil. Non pas comment fonctionne l'œil, parce qu'on pourrait y passer aussi deux heures, mais l'œil est la lampe du corps. Ce sera le sujet prochain. Alors ici, 40 ans. Et Deutéronome 29,4 dit « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre et des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Pendant 40 ans. Pourtant, ils en ont vu des miracles. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont un cœur, ils ne comprennent pas. Alors le cœur, c'est le lieu le plus secret de la personne, à la fois le lieu le plus important, le plus intime, le plus représentatif de la personne, c'est la personne elle-même. Ce que je vous disais il y a 5 minutes, si vous changez les bras, la tête et tout ce que vous voulez, il reste le cœur. C'est pourquoi l'Éternel ne va pas s'attacher au discours ou à l'apparence d'une personne, mais à son cœur. 1 Samuel 16, 7, tout le monde connaît. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Samuel avait cette capacité. Je sais, ô mon Dieu, que tu aimes, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. On y revient. Il regarde les cœurs. Est-ce que ce cœur est droit devant Dieu ? La droiture, je vous assure, la droiture, l'Église, elle devrait y réfléchir à ça. La droiture, la justice. Alors, c'est tellement important que ceux qui ont le Seigneur dans leur cœur, la parole du Seigneur dans leur cœur, ils ont une veilleuse. Une veilleuse. Il y a quelque chose qui veille. Vous savez, comme quand on éteint tous les appareils, mais il reste un petit machin. Ils ont une veilleuse dans leur cœur. Et on le voit, par exemple, dans le Cantique, chapitre 5, au verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Autrement dit, vous savez que la parole nous dit que les dix vierges, elles dorment. Mais sur les dix vierges, il y en a cinq qui veillent. Et quand le Seigneur, il s'approche, ces cinq-là, ting, ça s'allume. Je sais qu'il arrive. Parce qu'ils ont la veilleuse. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif dit « Vienne », que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. L'épouse, la vraie épouse, c'est celle qui dit « Seigneur, viens », et que sa veilleuse est allumée. Et pourquoi on veut qu'ils viennent ? Pour rétablir la justice ? Bien sûr. Voyez pas ce monde dans quel état il est. On a besoin de lui. Alors, on va avancer. Étant donné que c'est dans le cœur de l'homme que les mauvaises choses prennent naissance, c'est là aussi que la conscience du bien et du mal va se révéler. Et ça va répondre à ta question, Simon. Si le cœur n'est pas touché, il ne peut pas réaliser qu'il est mauvais. Il faut qu'il y ait une lampe extérieure qui vienne éclairer le cœur pour que ce cœur qui est déclaré mauvais par Dieu puisse réaliser qu'il est mauvais. Donc c'est là que quelque chose se passe. Et dans 2 Rois 22, 10, on lit « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu, contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Et donc on arrive là à ce cœur qui est le lieu de la repentance. Alors, on retrouve les textes qu'on a lus tout à l'heure. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce n'est pas les orgueilleux, hein. Il n'est pas près des orgueilleux. Mais forcément, de toute façon, les orgueilleux n'ont pas de place.
Ils s'autosuffisent.
C'est-à-dire que, en gros, ils sont leur propre Dieu. Donc, C'est pas Dieu leur Dieu, c'est eux. Il y a des gens, hein, ils savent tout faire. J'ai remarqué ça. Hein. Et dans Ézéchiel 36, 26, on lit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est tellement important que ce que pense, ce que dit notre cœur à l'intérieur. Il faut être honnête avec soi-même. Hein. Quand on est tout seul dans la chambre, on peut être honnête avec soi-même. 1 Jean 3, 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. » Et Romains 2, 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement d'Elohim. » Un cœur impénitent, donc il est mauvais, il n'est pas touché, il ne veut pas se laisser toucher, ou on l'a mal touché, et bien il s'accumule de la colère dessus. Il faut vraiment revenir aux paroles de l'Écriture, parce que c'est fort tout ça. Hein. Alors, je voudrais maintenant vous parler de... M'excuse, j'ai encore un bon bout de temps. La circoncision du cœur. Romains 10, versets 8 et 11. « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, quel est le processus? Eh bien, la parole, elle est spirituelle. Les Écritures sont spirituelles. Même si c'est écrit sur du papier, c'est spirituel. Elle vient du cœur de l'Éternel. Elle existe. Et donc, Elohim veut que cette parole parte de son cœur vers ton cœur. Si elle reste ailleurs que de ton cœur, c'est du baratin. Donc, pour que ça arrive à ton cœur, ça doit passer par ton esprit, parce que Dieu parle d'esprit à esprit, et de l'esprit, ça arrive à ton cœur. Si tu reçois dans ton cœur, la parole va passer dans ton âme. Vous voyez le chemin? Et quand ton âme va réaliser l'amour du Père comme ça, elle va exploser de joie. Et c'est comme ça que la bouche ne peut pas s'empêcher de glorifier et remercier l'Éternel. Parce que la bouche, elle obéit. Vous voyez comment ça fonctionne? Je vais le redire plus simplement, mathématiquement, si vous voulez. Moi, j'aime bien ce qui règne, hein, comme ça. La parole entre par l'esprit de l'homme. Puis approche le cœur qui, à son tour, le transmet à l'âme, et de l'âme sort une expression de reconnaissance si forte que la bouche l'exprime publiquement. Vous comprenez le rôle du cœur? Alors, maintenant, on parle de la circoncision du cœur. Beaucoup de personnes souffrent sur cette terre. On en connaît. Nous-mêmes, on a des misères. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans la souffrance, il y a des gens qui vont être brisés, mais brisés, et puis il y en a d'autres, non. Ils ne vont pas être brisés, ils vont peut-être être écœurés, c'est possible. Et Les souffrances du cœur sont terribles. Est-ce que toutes les souffrances du cœur, est-ce que tous les cœurs brisés, est-ce qu'il y a une correspondance entre le cœur brisé et la circoncision du cœur? C'est ça qui est intéressant à étudier. Il y a des gens dans la souffrance, ils s'endurcissent. Ils ne sont pas brisés. Prenez le Pharaon. Pharaon, il y a eu 10 plaies sur sa tête. Il s'est endurci. Alors pendant un certain temps, c'est lui qui s'endurcit, puis après c'est Dieu qui l'a endurci. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais vous voyez que son cœur n'a pas été brisé. Et donc vous avez des gens qui, dans la souffrance, n'ont pas le cœur brisé. Ça existe, c'est comme ça. C'est pas à moi de juger. Donc, il y en a qui passent par des souffrances incroyables, mais qui n'ont pas la foi pour crier à l'Éternel. Et puis, il y en a qui vont tout surmonter, humainement, sans l'Éternel. Alors, qu'est-ce que c'est que la circoncision? Le mot circoncision veut dire couper. Et ça fait mal, hein, messieurs, si vous voulez essayer, vous allez savoir ce que c'est. Moi, je préfère pas. Hein? Abraham, il a mis quelques jours à se remettre. Bon. Alors, les personnes au cœur brisé, on a dit que l'Éternel les regarde. Donc, il fait attention à ces gens-là. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. L'esprit. Psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Elohim, c'est un esprit brisé. Ô Elohim, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quand est-ce qu'on a le cœur brisé? Quand tout va bien? Eh ben non, hein. Je suis désolé, mais c'est pas quand tout va bien qu'on a le cœur brisé. Donc vous comprenez qu'on passe aussi par des moments qui sont délicats et qui nous amènent des situations où on a le cœur fracassé. Et c'est dans ces situations-là que, si nous écoutons et si nous recevons du cœur de Dieu la parole, tout dépend comment la parole est annoncée, hein. Si elle est annoncée par intellectuellement, elle fera rien. Mais si elle est annoncée par quelqu'un qui le sort de son cœur, ça va dans votre cœur. Et le cœur, il est brisé, là. Alors, c'est important, vous savez. Quand on brise un vase, vous avez un beau vase, pouf, il tombe par terre. Le vase n'est pas content. Hein. Mettez-vous dans la peau du vase. Hein. Il est brisé en petits morceaux. Alors Dieu le voit, hein, parce qu'il y a le cœur brisé. Donc il va recoller les morceaux. Alors maintenant le vase, il est tout recollé. On le remet sur la cheminée, mais il y a une chose qui a changé, parce que désormais, le vase, il sait qu'il est fragile. Ça change tout. Il sait qu'il est fragile. Et les mots qui parlent du brisement, il y a deux façons de le dire, il y a Livouchrev lève, dont la racine chavar dit mettre en pièces, brisée, tranchée, coupée. Et cette racine donne un mot intéressant qui est Mishber. Et Mishber, c'est une brèche, c'est une ouverture de la matrice. C'est l'ouverture du sein maternel. Autrement dit, quand le cœur est brisé, et ça nécessite que le vase y tombe par terre, il est recollé, mais il y a une brèche. Et c'est exactement comme le jour du mariage, la déchirure de l'hymen. À partir de ce moment-là, la femme peut enfanter. Donc le Seigneur, quand il fait la circoncision du cœur, à partir de ce moment-là, tu peux faire des œuvres éternelles. Mais ça passe par le vase cassé. Et ça passe par la repentance. Obligé, puisque tu es obligé de comprendre que ton cœur n'y est pas bon. Et si tu comprends que ton cœur n'y est pas bon, c'est plus ton âme qui doit diriger. Tu comprends? C'est ça la conversion. À partir du moment où l'homme accepte de perdre sa référence qui est son âme, moi, 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 il reçoit comme référence ce que l'Éternel va mettre dans son cœur, la parole des Écritures. Et alors, comme son cœur a été circoncis, la parole, elle peut rentrer, mais non seulement c'est la parole qui peut rentrer, mais c'est le sang de l'Éternel qui va circuler dans son cœur. Vous comprenez ça? Et le sang de l'Éternel, le cœur va marcher comme une pompe. Il va pomper le sang de l'Éternel et à partir de là, tu vas vivre des œuvres préparées d'avance, éternelles, qui ont un écho éternel. Des vraies œuvres de vie. Pourquoi l'homme se met-il à crier vers son Créateur? Parce qu'il n'y a plus de solution. Il a compris dans sa vie qu'il n'est pas capable de conduire sa propre vie. Le vase est cassé. Alors il lâche prise, il s'abandonne dans les mains du Père. Et le Père a compris que c'est le moment, à ce moment-là, de mettre dans son cœur ce qui va le sauver. L'Esprit Saint, le roi HaKodesh, va pénétrer dans son cœur. Il déchire l'endroit. Ouais, on est déchiré. Mais en même temps, il vient mettre la lumière. Alors, l'âme comprend ce qui vient de se passer. Et l'âme, elle se met à pleurer en repentance. Ben bien sûr. Vous comprenez? Maintenant, Seigneur, viens t'installer en moi. Et là, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Avec une promesse dans le baptême, non seulement tu le dis à tout le monde, mais dans le baptême, la promesse que tu fais, c'est d'avoir une conscience propre. C'est-à-dire de garder les lieux propres. Si le Seigneur vient habiter en toi, mets pas des ordures dessus. Vous comprenez? C'est tellement simple à comprendre. Mets pas des ordures dessus. À chaque fois, moi je l'ai déjà dit 100 fois, mais quand on pêche, c'est comme si on... Vous savez, les vides d'ordures qu'il y avait dans les appartements, c'est comme si on faisait descendre les ordures sur la tête du Saint-Esprit qui est en toi. T'imagines, toi? Au bout d'un moment, le Saint-Esprit, il est contrit, il se ratatine, il se met dans un coin, il dit « Oh lolo, c'est invivable ». Et vous croyez que Dieu va laisser souffrir le Saint-Esprit indéfiniment? Vous comprenez la logique qui est derrière? C'est pas possible. Donc il faut vite se repentir et nettoyer tout ça. Parce que le Saint-Esprit a besoin d'un endroit propre. À ce moment-là, il pourra s'épanouir. Vous comprenez? Alors, en faisant cela, tout ça, la matrice du cœur de l'homme est ouverte. Et cette matrice, le cœur de l'homme, va pouvoir enfanter des choses extraordinaires. Un cœur circoncis, on a compris, et je vais bientôt terminer là-dessus, quand une personne est ouverte par le Seigneur et par le cœur de quelqu'un qui a porté le Seigneur, parce que Dieu se sert des hommes et des femmes, eh bien, il va pomper le sang nouveau. Et ça va se transformer en joie, en acte d'amour, qui sentent la bonne odeur de l'Éternel qui est vivant. On n'a pas besoin de se forcer. C'est une autre vie. Et l'Écriture devient vivante. Et les mots prennent de la couleur. Et notre entourage va constater que quelque chose a été changé. Si ça ne se voit pas, c'est que ce n'est pas fait. Et l'expérience est si forte que rien ni personne ne pourra nous faire douter de l'amour du Père. Et alors, on comprend pourquoi les martyrs n'ont pas craint la mort. Parce que l'expérience que je viens de vous décrire, ça dépasse l'intelligence. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. C'était un drôle de cours d'hébreu, je comprends.